Vous écoutez, on lit pour vous.
Plongé dans le revirement de Méta face au MAGA, un texte de Naomi Nix et Elizabeth Dworkin du Washington Post, paru le 29 janvier 2025 dans Le Devoir. À l'heure actuelle, Mark Zuckerberg s'efforce de s'attirer les bonnes grâces de Donald Trump. Mais il y a une dizaine d'années, le PDG de Meta voulait châtier le politicien. À la fin de l'année 2015, M. Trump avait appelé à interdire d'entrer aux États-Unis les musulmans dans un message enflammé publié sur Facebook, suscitant un tollé parmi les employés de la société. M. Zuckerberg et d'autres hauts cadres de Meta avaient alors estimé que le message du milliardaire était odieux et devait être retiré en vertu des règles interdisant les discours haineux sur la plateforme. Le principal lobbyiste et républicain de l'entreprise, Joel Kaplan, n'était pas de cet avis. Ancien membre du gouvernement de George W. Bush, M. Kaplan avait donc exhorté le fondateur de Facebook, alors âgé de 31 ans, à laisser le message litigieux en place. Une décision a alors été prise. Les politiciens seraient dorénavant exemptés de la plupart des règles de Meta en matière de contenu, permettant ainsi à M. Trump et à ses émules de publier pratiquement n'importe quoi sur Facebook, même si Mark Zuckerberg condamnait publiquement la haine. Pendant le premier mandat de M. Trump, Meta et son PDG, alors de tendance progressiste, s'en sont fréquemment remis à M. Kaplan à huis clos, instituant des politiques de contenu, de promotion et de vérification des faits favorables aux républicains. Mais cette stratégie n'a guère contribué à cultiver un amour pour Mark Zuckerberg chez les conservateurs américains. Aujourd'hui, le fondateur de Meta ne veut plus jouer dans les deux camps. Repositionnement. Avec le retour de Trump au bureau ovale, Mark Zuckerberg est en train de repositionner son entreprise pour s'engager à fond dans des États-Unis aux couleurs du MAGA. Le programme de vérification des faits de Meta, autrefois très apprécié, a été mis au placard. Les efforts de l'entreprise en matière de diversité et d'inclusion ont été freinés. Et Joel Kaplan est dorénavant à la tête des affaires mondiales de l'entreprise, remplaçant l'ancien politicien britannique Nick Clegg de tendance progressiste. Après s'être engagé à rester neutre lors de la dernière campagne présidentielle, M. Zuckerberg a renforcé ses relations avec Donald Trump. Il est allé à Mar-a-Lago pour le rencontrer en privé. Il a autorisé un don de 1 million de dollars de Meta au fonds d'intronisation du nouveau président américain. Il a ajouté une voix trumpiste, celle du PDG de l'Ultimate Fighting Championship, Dana White, au conseil d'administration de sa société. Dans une démonstration éclatante de cette nouvelle alliance, Mark Zuckerberg a rejoint la famille de Trump, les membres du cabinet présidentiel et ses alliés milliardaires sur la scène lors de la cérémonie d'assermentation. Si la nouvelle stratégie politique de Meta fonctionne, elle pourrait éviter l'ire d'un président belliqueux et gagner un allié dans sa lutte contre un nombre croissant de lois visant sa position dominante à travers le monde, au risque de se mettre à dos plusieurs de ses employés et de ses utilisateurs, irrités par la transformation spectaculaire de l'entreprise. Meta a renoncé à tout commentaire. Facebook a fait des concessions pendant le premier mandat de Trump, mais il l'a fait discrètement, explique Nou Wexler, consultant en relations publiques qui a autrefois travaillé pour Meta. Je pense que la différence par rapport à ce que vous voyez maintenant, c'est que ces changements sont davantage mis avant. Tordre les règles. Après la victoire de Donald Trump en 2016, c'est en grande partie à Joel Kaplan qu'il est revenu de se faire des amis au sein du gouvernement. Le républicain avait rejoint Meta en 2011 après avoir passé 8 ans à la Maison-Blanche sous George W. Bush en tant que chef de cabinet adjoint. Ex-officier du corps des marines, M. Kaplan a notamment été l'assistant du juge Antonin Scalia de la Cour suprême des États-Unis et a travaillé comme lobbyiste dans le secteur de l'énergie. Son appartenance au camp républicain était incontestable, mais ce traditionnaliste de l'ère Bush s'est trouvé confronté au défi que posait l'anticonformiste Trump. Il n'avait d'ailleurs pas soutenu le milliardaire lors des primaires de 2016, lui préférant l'ancien gouverneur de Floride Jeb Bush et le sénateur floridien Marco Rubio. Le diplômé de l'université Harvard s'était toutefois rapidement rapproché du gouvernement Trump, faisant un pèlerinage au gratte-ciel du milliardaire en décembre 2016 dans l'espoir de décrocher un poste de responsable, selon deux sources familières avec le dossier qui ont parlé sous le couvert de l'anonymat. Ces options politiques sortaient du lot chez Meta, alors simplement nommé Facebook, une entreprise qui était connue pour ses employés progressistes et ses relations étroites avec le gouvernement Obama. La présence de M. Kaplan à la controversée audience de confirmation de Brett M. Kavanaugh à la Cour suprême en 2018 avait d'ailleurs suscité la colère du personnel de l'entreprise. Lors d'une grande réunion avec les employés de Facebook, il avait expliqué soutenir un ami de longue date, sans s'excuser, selon deux autres sources qui ont parlé sous le couvert de l'anonymat. À cette époque, la Silicon Valley était très à gauche, explique Kathy Harbutt, ancienne responsable chez Meta et ex-stratège numérique en chef du comité sénatorial national républicain, National Republican Senatorial Committee. La réaction à l'élection de Donald Trump et le contre-coup, en particulier chez Facebook, ont fortement influencé ce qu'ils ont fait. Vous écoutez, plongé dans le revirement de Meta face au MAGA, un texte de Naomi Nix et Elizabeth Dworkin du Washington Post, paru le 29 janvier 2025 dans Le Devoir. Néanmoins, M. Kaplan avait essayé d'approfondir les relations entre le monde de Meta et celui de Donald Trump. Il avait ainsi organisé un dîner privé pour Zuckerberg et Chan à la Maison-Blanche. Le bureau de Meta à Washington avait aussi interviewé l'ancien directeur de campagne de M. Trump, Corey Lewandowski, pour un poste de lobbyiste. C'est finalement Sandra Loof, ancienne directrice parlementaire du sénateur Jeff Sessions, procureur général sous M. Trump, qui avait été embauché. Il avait créé un groupe de lobbyisme anti-chinois, American Hedge, afin d'harmoniser les messages de Facebook à ceux de la Maison-Blanche. Mais gagner la confiance de Donald Trump s'est avéré difficile pour lui. Les influenceurs de droite accusaient depuis longtemps les algorithmes de Facebook de censurer les voix conservatrices et M. Trump s'était rangé dans leur camp. Le président avait alors lancé une série d'attaques contre les géants de la techno, les accusant d'avoir un parti pris contre lui. Face à ces attaques, M. Kaplan a contribué à minimiser des mesures disciplinaires contre les pages colportant de fausses nouvelles, arguant qu'elles auraient un impact disproportionné sur les gens de droite et a fait pression pour que l'algorithme de Facebook donne davantage de place aux voix conservatrices. À l'approche de l'élection présidentielle de 2020, M. Zuckerberg s'était vanté de l'objectif de Meta d'aider plus de 4 millions de personnes à s'inscrire sur les listes électorales et de la mise en place d'un centre d'information. En coulisses, cependant, l'équipe de M. Kaplan a trouvé le moyen de tordre les règles afin d'éviter d'avoir à sévir contre les affirmations trompeuses de Donald Trump. Ainsi, lorsque M. Trump a prétendu à tort, en mai 2020, que le secrétaire d'État du Michigan avait envoyé illégalement des bulletins de vote par correspondance à certains électeurs, des employés de Meta avaient demandé à M. Kaplan de retirer le message en vertu des règles internes interdisant les affirmations trompeuses sur la manière de voter. Mais ce dernier a soutenu que ces allégations pourraient se révéler vraies plus tard si des tribunaux allaient en ce sens, selon deux personnes au fait de l'affaire et une correspondance interne obtenue par le Washington Post. La publication de Donald Trump et plusieurs autres est donc restée en place. La stratégie de Meta, qui consistait à apaiser Trump en privé, a vacillé après que des émeutiers eurent attaqué le Capitole des États-Unis le 6 janvier 2021. Un incident organisé en partie sur les médias sociaux. En réaction, Meta et d'autres entreprises technologiques ont suspendu les comptes de Donald Trump, le privant ainsi de son porte-voix sur les médias sociaux. Changement de paradigme. Mais la victoire décisive de Trump en 2024 a ouvert la porte à de nombreux changements favorables aux républicains chez Meta. L'entreprise a recruté comme lobbyiste Dustin Carmack, qui a notamment contribué à l'élaboration du programme de la Heritage Foundation, connu sous le nom de Projet 2025. Alors que de nombreux républicains, y compris M. Trump, ont salué la série de changements mis en œuvre par Meta au début du mois, la plus grande victoire des conservateurs pourrait être les déclarations publiques du PDG de l'entreprise. M. Zuckerberg a qualifié de « censure » les efforts déployés depuis des années par sa société afin d'encadrer la liberté d'expression, reprenant ainsi une expression républicaine qui rejette celle qui est préférée par l'industrie, soit la « modération du contenu ». Il a qualifié les grands éditeurs de presse de « médias patrimoniaux »,« legacy media », en lesquels il n'a plus confiance. Ces nouvelles règles en matière de propos haineux font notamment référence au « transgendérisme », un terme que certains militants LGBTQ+, considèrent comme offensant ou dépassé. Au cours des dernières années, en parallèle, les dirigeants de Meta se sont efforcés d'étouffer tout mécontentement interne. Des règles limitant les discussions sur les sujets litigieux au travail ont été mises en place. Et, dans le contexte économique actuel, les travailleurs de la Silicon Valley ont plus peur de perdre leur emploi qu'avant. Dans les forums de discussion interne de Facebook, des employés de Meta se sont plaints de voir des messages critiquant l'entreprise disparaître. D'autres ont noté que la nouvelle philosophie de l'entreprise en matière de liberté d'expression ne semblait s'appliquer qu'aux conservateurs sur les réseaux publics, selon des copies des messages consultés par le Post. Mark Zuckerberg ne montre aucun indice de fléchissement. Dans une vidéo expliquant les changements, il a affirmé que l'abandon de la modération des contenus était nécessaire parce que la victoire de Donald Trump avait montré que le pays avait atteint un point de basculement culturel vers une nouvelle priorité accordée à la liberté d'expression. On ne sait pas encore comment la seconde présidence Trump changera la culture des États-Unis, mais M. Zuckerberg a déjà fait savoir qu'elle définira celle de Meta. C'était « Plongé dans le revirement de Meta face au MAGA », un texte de Naomi Nix et Elizabeth Dwoskin du Washington Post, paru le 29 janvier 2025 dans Le Devoir.
Quand un rêve d'enfant mène à une dent de mégalodon. Un texte de Mathieu Perrault paru le 7 février 2025 dans la presse. À la garderie, Louis-Philippe Battement rêvait de dinosaures. Au fil des années, sa passion d'enfance ne l'a jamais quitté. Elle l'a même mené à prouver que des mégalodons ont déjà sillonné les eaux sous nos latitudes. Les musées canadiens collectionnent des fossiles depuis deux siècles. En commençant ses études en paléontologie, Louis-Philippe Batman s'est rendu compte que ses collections recelaient probablement des secrets fascinants. Un des fossiles, qui n'avait jamais été décrit, c'est des dents de requin gigantesques, de mégalodon, raconte l'étudiant de l'Université McGill en entrevue. On ne savait pas exactement jusqu'où, dans le Nord, cette espèce était présente dans l'Atlantique. J'ai pensé qu'on pourrait avoir la réponse en analysant les collections canadiennes. Louis-Philippe Batman traînait cette fascination depuis l'école secondaire, quand il avait consulté une description de dents de requin géantes retrouvées par des pêcheurs de pétoncles qui raclaient les fonds marins au large de la Nouvelle-Écosse. On a fait un projet au Musée canadien de la nature à Ottawa, dit-il, et j'ai demandé de regarder ces dents dans leur collection. Âgé de 23 ans, Louis-Philippe Batman est le premier à confirmer que le mégalodon fréquentait les eaux sous nos latitudes dans le Canadian Journal of Earth Sciences. Il y a une dent à Ottawa, 3 ou 4 dans un musée en Nouvelle-Écosse et 3 ou 4 dans des collections privées. Des pêcheurs en trouvent tous les ans, précise-t-il. Depuis, la garderie. La passion de Louis-Philippe Batman pour la paléontologie remonte à loin. Une éducatrice à ma garderie nous avait montré un livre de science avec une page sur les dinosaures. Puis, une cousine de ma mère m'a donné un livre sur les dinosaures. J'étais passionné. J'avais beaucoup de jouets de dinosaures. Au secondaire, Louis-Philippe Batman a un peu modéré son enthousiasme parce que ce n'était pas très cool comme passion. Il a tout de même consacré son projet de fin de secondaire à l'école de Rochebelle à Québec aux fossiles de l'Est du Canada. Il caresse toujours le rêve de publier ce travail s'il réussit à le vulgariser. Actuellement, ça ressemble un peu à un recensement, décrit-il. Sa passion pour les dinos a ressurgi au cégep. J'ai contacté mon directeur de maîtrise, Hans Larsen. Il m'a dit qu'il me prendrait dans son laboratoire quand je serai à l'université. Cette embauche précoce a mené à l'étude sur les mégalodons. Louis-Philippe Batman tient à rendre hommage à son mentor, Alexandre Demers-Potvin, qui vient de finir son doctorat. Je l'ai accompagné 3 étés en Alberta, au Parc provincial des dinosaures, comme assistant de recherche. C'est un endroit magique. Le plus dense au monde en fossiles. C'est plus difficile de ne pas marcher sur un fossile que de marcher sur un fossile. Au cinéma. Louis-Philippe Batman a-t-il été un fan des films Jurassic Park et de Meg, une franchise mettant en vedette les mégalodons? De Meg, dit-il, ce n'est pas réaliste. Il est impossible que le mégalodon existe encore, mais ça attise la curiosité du public pour la paléontologie. Enfin, il était plutôt accro à une série en 6 épisodes de la BBC, Walking with Dinosaurs, en français, sur la Terre des dinosaures. Je l'ai vu des dizaines de fois, avoue-t-il. Changement climatique. La maîtrise de Louis-Philippe Batman concerne les parallèles entre les changements climatiques actuels et ceux du passé. Je crois que ce sera une grande contribution de la paléontologie, souligne-t-il. On va pouvoir savoir ce qui nous attend en comparant avec ce qui s'est passé auparavant. À ce sujet, les nouvelles sont un peu déprimantes. L'augmentation de la température et le rythme des extinctions d'espèces actuelles sont comparables à ce qu'on voit dans les grandes extinctions, signale-t-il. Heureusement, l'étude des fossiles lui permet aussi de garder un certain optimisme face à l'avenir. La vie revient toujours, explique-t-il, mais ça peut prendre des millions d'années pour reconstruire les écosystèmes quand ils sont détruits. Des grains de sable. La passion de Louis-Philippe Batman le mène aussi à la philosophie. J'éprouve une humilité cosmique en étudiant des êtres qui ont existé des dizaines de millions d'années avant nous. Ça nous montre qu'on est des grains de sable dans l'univers. On existe dans un clin d'œil géologique. Quand il a découvert un fossile dans le parc national des dinosaures en Alberta, il raconte avoir éprouvé une certaine émotion à penser qu'il était le premier être vivant à le contempler depuis des dizaines de millions d'années. Ça nous fait réaliser que tout est éphémère. Mais je crois que c'est un sentiment qui a une certaine beauté. Qu'est-ce qu'un mégalodon? Le mégalodon est un cousin du grand requin blanc. Il atteignait 20 mètres de long. Il a existé pendant 20 millions d'années et a disparu il y a 500 000 ans. Il chassait les grandes proies, notamment les dauphins. Le mégalodon a peut-être disparu lors d'un refroidissement des océans qui a commencé il y a 2,6 millions d'années, qui a pu changer aussi la quantité de ses proies. L'apparition de concurrents comme le requin blanc et l'orque a aussi pu jouer un rôle. En savoir plus. Source, Musée d'histoire naturelle de la Floride. 20 tonnes, poids maximal du mégalodon. 3,5 tonnes, poids maximal du grand requin blanc. 2 mètres, taille maximale de la mâchoire du mégalodon. 6700, équivalent en boîte de thon de la consommation quotidienne de poissons du mégalodon. C'était « Quand un rêve d'enfant mène à une dent de mégalodon », un texte de Mathieu Perrault paru le 7 février 2025 dans La Presse.
Métamorphose à venir pour l'ancien couvent des Franciscains dans Rosemont. Un texte de Jeanne Corriveau paru le 14 janvier 2025 dans Le Devoir. L'ancien couvent des Franciscains dans Rosemont se prépare à une métamorphose majeure avec la construction d'immeubles résidentiels sur le site et jusqu'à 900 nouveaux logements. Héritage Montréal s'inquiète toutefois de la démolition de l'ancienne chapelle construite en 1960 et d'architecture brutaliste. L'Office de consultation publique de Montréal organise mi-janvier 2025 l'audition des opinions sur le projet. Le groupe Prével souhaite faire l'acquisition de l'ancien monastère aussi connu sous le nom de Couvent de la Résurrection. Situé à l'intersection entre le boulevard Rosemont et la rue Dixon, l'ensemble comporte un cloître construit entre 1914 et 1922 qui sera préservé et mis en valeur, ainsi qu'une infirmerie et une chapelle ajoutées dans les années 1960. Le terrain compte aussi un boisé d'une superficie de 6500 mètres carrés, le boisé des Pères, que le promoteur entend céder à la ville pour être annexé au parc du Bois des Pères adjacent. Disparition de la chapelle. Le promoteur prévoit ériger 3 immeubles résidentiels de 8, 13 et 23 étages qui compteront un total de 650 à 750 logements. Quelques 150 logements sociaux pourraient aussi être construits sur le site, notamment sur le terrain de la chapelle. Celle-ci sera donc détruite, tout comme l'infirmerie. Prével reconnaît que la chapelle, dessinée par l'architecte Marie-Albert Barry, est dans une condition généralement bonne. L'entreprise soutient cependant que sa conversion pour un usage communautaire nécessiterait d'importants travaux de mise aux normes. Étant donné l'envergure des travaux à mettre en œuvre pour assurer sa pérennité, il est jugé préférable de remplacer la chapelle par un bâtiment de logements sociaux qui maintiendrait la fonction communautaire de cette composante du site, explique le promoteur dans sa présentation du projet. Héritage Montréal déplore toutefois cette décision. Si l'approche de sauvegarde du boisé et du cloître est plus convaincante, voire innovante, le sort de la chapelle moderniste soulève de sérieuses questions dont la première est est-il inévitablement nécessaire de la démolir? Soulève Dinu Bumbarou, directeur des politiques à Héritage Montréal. M. Bumbarou dit comprendre que la démolition résulte de problèmes techniques liés au béton, ainsi que l'absence d'usage rentable pour le promoteur. Il estime toutefois que la ville aurait pu tenter de trouver un usage collectif pour la chapelle, dont l'intérêt patrimonial est clair. Au comité logement Rosemont, on s'interroge plutôt sur la place accordée aux logements sociaux. On pense que les sites institutionnels, publics ou à vocation collective doivent rester dans la collectivité, souligne Arnaud Duplessis-Lalonde, organisateur communautaire. Bien que le nombre de logements sociaux prévus respecte, voire dépasse le nombre minimum de logements sociaux requis dans le règlement pour une métropole mixte, cela n'est pas suffisant compte tenu du déficit de logements sociaux dans le secteur, avance-t-il, en réclamant que la totalité des logements soit à vocation sociale. M. Duplessis-Lalonde souligne qu'en 2018, les élus de Rosemont-la-Petite-Patrie avaient adopté à l'unanimité une motion visant à protéger les lieux collectifs, communautaires et institutionnels en refusant les changements de zonage modifiant leur usage. Un projet immobilier comme celui de Prével, selon notre compréhension, irait contre cette motion, dit-il. Des citoyens inquiets. Lors d'une séance d'information tenue le 10 décembre 2024, des citoyens se sont inquiétés de la hauteur de la tour de 23 étages qui déroge au plan d'urbanisme. Avec ses 70 mètres, cette tour sera moins élevée que son voisin, l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, qui sera agrandi et proposera des hauteurs de plus de 80 mètres. La hauteur permet de dégager les espaces au sol, de préserver le boisé, de s'assurer d'avoir des densités semblables aux couvents le long de Rosemont, avait expliqué Laurence Vincent, présidente de Prével. De son côté, le comité de surveillance Louis Riel, qui milite pour la préservation des habitats naturels dans l'Est, se réjouit de la protection du boisé des pères et des aménagements paysagers prévus sur le site. Ce boisé-là est une des dernières parcelles de forêt ancestrale, souligne son président Jean-Jacques Lincourt. Le comité met cependant en garde contre les dommages que pourrait causer l'arrivée de 600 logements à proximité. C'était Métamorphose à venir pour l'ancien couvent des Franciscains dans Rosemont. Un texte de Jeanne Corriveau paru le 14 janvier 2025 dans Le Devoir.